Bonjour à tous, c'est un plaisir de nouveau d'être avec vous. Nous pensons à Pâques et j'imagine que Pâques a un sens pour chaque personne qui écoute ou même pour ceux qui sont ici avec moi ce matin. Je parlais avec ma mère cette semaine et on parlait de nos traditions de Pâques. Et une de ces traditions, c'était d'être 4 ou 5 familles ensemble avec les enfants et de passer dimanche après le culte avec grillade, avec les chasses aux yeux. C'était aussi de jouer ensemble, toutes ces différentes choses qu'on faisait. Et puis en discutant avec elle, elle m'a dit que c'est la première fois depuis presque 60 ans que ces familles ne seront pas ensemble à cause du coronavirus. Tous ces souvenirs qui viennent avec un jour de Pâques. Il y a aussi, je me souviens, les habits de printemps. On achetait de nouveaux habits, on s'habillait comme il fallait. Il y avait toujours la photo après le culte devant la maison. Il y avait aussi le chocolat. C'était pas un jour comme les autres. Et sans doute, vous avez des traditions que vous avez vécues, que vous vivez à Pâques. J'aimerais aujourd'hui penser à autre chose que le changement de saison. J'aimerais penser à autre chose que le chocolat et les œufs qui sont cachés. Je propose qu'on ancre la Pâques d'aujourd'hui, non tellement dans notre histoire et de nos habitudes et de nos traditions, mais plutôt de sa propre histoire, l'histoire de Pâques avec Dieu qui est à l'œuvre et ce que la Pâques signifie pour les chrétiens depuis le début. Évidemment, la Pâque est une fête religieuse chrétienne qui pense et qui commémore la résurrection de Jésus. Et vous savez peut-être que le mot Pâque vient d'un autre mot hébreu de Pessa, qui veut dire passage. Ce mot a donné plus tard donc les mots en grec et en latin qui est Pascha et donc la Pâque que nous avons en français. Et Pessa, donc cette célébration d'Israël, était pour commémorer le fait que le peuple avait été libéré de l'esclavage en Égypte. Israël a passé 400 ans dans la servitude, dans l'esclavage, il y a presque 4000 ans en arrière. Et les autorités, à un moment donné, c'était autour de 1400 ans avant Jésus-Christ, les autorités égyptiennes exigeaient la mort de chaque enfant mâle qui est né parmi les Hébreux. Et à travers Moïse, Dieu a envoyé des plaies contre l'Égypte pour faire apprendre à Pharaon et au peuple égyptien qui était le vrai Dieu. La dernière plaie parmi les 10 plaies qui étaient envoyées, c'est la mort des premiers-nés. Pourquoi la mort? C'est comme eux, ils avaient, les Égyptiens avaient exigé la mort des premiers ou des enfants mâles d'Israël. De la même façon, Dieu a demandé la mort des premiers-nés de tout enfant en Égypte. Et pour que la mort passe par-dessus du peuple d'Israël, chaque famille hébreu a pris un agneau d'un an et a tué cet agneau et a pris le sang et a peint autour de la porte, à l'entrée des maisons, le sang de ces agneaux. Et puis, ils sont restés à l'intérieur de leur maison, confinés dans la maison, en attendant que l'ange de la mort passe par-dessus de la maison. Que le sang d'un agneau sauve les premiers-nés de la maison. Pâques, pour les Juifs, pour les Israélites, c'était signe de libération. C'est Dieu qui avait racheté son peuple, qui avait racheté son peuple de leur esclavage et de leur maître. C'était un nouveau commencement pour former un peuple par son action. Et voilà, c'est la première Pâque. Dieu ordonne à son peuple de se souvenir de cette libération chaque année par un repas hors commun, un repas de reconnaissance. Et puis, 1400 ans vont passer. C'est au début d'une célébration de Pâques à Jérusalem, la Pessa, la Pâque que les Romains ont crucifié Jésus. Ce n'est pas une question de coïncidence de calendrier, mais c'est suivant la pensée de Dieu que la crucifixion de Jésus a eu lieu au début de cette fête. Et 3 jours plus tard, le dimanche matin, pour les Juifs de l'époque, le premier jour de la semaine, les femmes et 2 disciples sont allés au tombeau pour voir que le tombeau de Jésus était vide. Et la Bible nous dit que c'est après la résurrection de Jésus qu'il accompagne ses disciples jusqu'à l'ascension. Alors, attention, Pâques ne signifie pas seulement la fête, la célébration. Mais quand un juif, à l'époque de Jésus, parlait de la Pâque, on parlait aussi de l'agneau qui était donné pour qu'on le mange pendant cette fête. Et pourquoi un agneau? Car chaque année, les Juifs se souvenaient de leur libération de l'Égypte, libération de leur esclavage, à travers un repas de pain sans levain, des herbes amères, et aussi d'un agneau pascal, pour ceux qui pouvaient voyager à Jérusalem, les agneaux étaient donc sacrifiés dans le temple. Ils prenaient un agneau sans faute d'une année, et dans les cours du temple, c'est là où les prêtres les égorgeaient, les abattaient, selon les prescriptions de la loi de Moïse. Quand nous lisons la crucifixion de Jésus dans les évangiles, nous voyons que les écrivains, ils ont mis des étapes et ils en parlent des heures, des choses qui se passent. À 9 heures le matin, Jésus est cloué à la croix. À midi, c'est l'obscurité qui couvre Jérusalem. Et nous apprenons qu'à 15 heures, Jésus meurt. Ce sont des heures qui correspondent au moment précis où les prêtres immolaient les agneaux pascals dans les cours du temple, à une distance très proche du moment où Jésus a été crucifié. La date d'aujourd'hui de Pâques n'a pas été choisie pour correspondre à la renaissance de la nature. C'est plutôt pour ancrer la mort et la résurrection de Jésus dans une histoire de salut de Dieu qui sauve, comme il a fait avec Israël en Égypte, et comme il a fait pour tout le monde le jour où il a été crucifié sur la croix et ressuscité le dimanche matin. La Pâque, dite chrétienne, est liée à des actions de libération et de rédemption, ancrées dans l'histoire d'Israël. Ce n'est pas ancré dans l'histoire du printemps, mais au moment où Dieu intervient dans notre histoire pour sauver, c'est ceci que nous voyons en commun avec Dieu qui sauve. Comme j'ai déjà dit, aujourd'hui, dimanche, c'est le premier jour de la semaine pour un juif. Dimanche, le jour de Pâques, c'est le jour de la résurrection de Jésus. Et cette résurrection était tellement importante pour les croyants du premier siècle. Pour qu'un apôtre puisse être apôtre, être parmi les 12, il devait être témoin de la résurrection de Jésus. Ceci ne veut pas dire qu'il était là quand la pierre a été roulée et Jésus est sorti, ni qu'il a rencontré Jésus dans le jardin. Mais cela veut dire qu'il a accompagné Jésus entre le moment de sa résurrection et son ascension jusqu'au ciel. Et il a accompagné Jésus, ses disciples, à travers des façons différentes. Pour certains, ils l'ont rencontré au Jordan, en réfléchissant aux événements tout récents, en se demandant où était le corps de Christ. Pour d'autres, c'était en marchant sur une route qu'ils ont accompagné Jésus pendant des kilomètres et entendu son enseignement. Pour d'autres, c'était dans une chambre fermée à clé, à l'étage, parmi des disciples craintifs, que Jésus est venu pour partager un moment avec eux et pour dire que la paix soit parmi vous. Pour d'autres, c'était de partager du pain et du poisson avec lui pendant un repas tout simple. Pour d'autres, autour d'un feu, près d'un lac, pour manger du poisson. Pour d'autres, en écoutant ses dernières paroles sur une montagne avant de monter au ciel. Et c'est dans ces circonstances, des circonstances normales, que Jésus a accompagné ses disciples après sa résurrection et s'est fait connaître à ses disciples. La résurrection de Jésus est le sommet c'est le sommet de tous les miracles que nous trouvons dans la Bible. Il est l'acte de puissance le plus important que nous pouvons rencontrer. Et pourtant, il y avait d'autres résurrections et Jésus en était l'auteur de plusieurs parmi eux. L'une des plus belles démonstrations de pouvoir et de pouvoir de Jésus, c'est la résurrection de Lazare, où Jésus a dit à Marie et à Marthe, « Moi, je suis la résurrection et la vie. » Et la résurrection de Lazare est puissante, mais ce n'est pas le sommet de ces miracles. Chez Lazare, c'est le rétablissement, c'est le rétablissement à la vie. C'est une continuation d'une vie interrompue par une mort subite. Par contre, la résurrection de Jésus est autre chose. C'est la rupture du passé qui signifie plus que plus rien ne sera le même. Ce n'est pas simplement la continuation d'une vie, c'est une nouvelle vie où la mort ne règne plus, à tel point que grâce à la résurrection, nous donnons plusieurs titres à Jésus comme nous avons déjà entendu aujourd'hui. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Il est le pionnier de la vie. Il est le début d'un âge nouvel. Il est l'auteur d'une création nouvelle ou simplement Jésus lui-même est résurrection et vie. Et la résurrection de Jésus est un renouvellement, mais beaucoup plus qu'un renouvellement. Car selon Jésus et ses disciples, Jésus a mis fin au règne sur la terre d'un règne qui existait depuis la chute de l'homme. Il a mis fin à la mort et à la crainte de la mort. Et c'est Dieu qui a forcé la porte qui avait été fermée à clé et scellée depuis la mort du premier être humain. C'est ça la différence entre la résurrection de Jésus et la résurrection des autres. Et parfois nous entendons que l'histoire de la résurrection est une bonne histoire, car elle nous aide à faire face à la mort avec courage. Mais attention, la résurrection est plus qu'une belle histoire qui nous encourage. C'est plus que cela, car c'est une vérité ancrée dans l'histoire de la libération que Dieu offre à son peuple. Ce n'est pas une vérité convenable, fabriquée seulement pour nous consoler. Comme nous avons déjà entendu ce matin, l'apôtre a dit, « Si Christ n'est pas ressuscité, alors votre foi est aussi vaine. » Et si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Ce n'est pas qu'il faut détester cette vie, mais si tout ce que nous vivons mène à rien, alors nous sommes les plus tristes parce que notre espérance n'a aucune base. Et ce thème de résurrection est essentiel et est central dans l'histoire de Jésus, aussi dans ses miracles. Pendant son ministère, il donnait la vie. Il ressuscite une petite fille devant ses deux parents. Il ressuscite un serviteur qui est aimé par son maître. Il ressuscite le fils unique d'une veuve qui est seule. Il ressuscite Lazare, comme nous avons déjà vu. Et tous ces miracles sont importants, étonnants et essentiels. Et puisque nous savons ce qui va se passer à la Pâque, quand nous lisons l'Évangile et ses résurrections, c'est comme boire l'apéro. Nous savons qu'il y a un repas qui suit, qu'il y a une bonne nouvelle qui suit. Et cette bonne nouvelle, ce n'est pas la résurrection de la fille de Jaïr, ce n'est pas la résurrection du serviteur, c'est même pas la résurrection de Lazare, c'est la résurrection de Jésus lui-même. Parce qu'avec Jésus, nous avons une nouvelle création. Nous avons un nouvel avènement qui introduit une nouvelle réalité. Dans nos têtes, nous disons que tous ces événements, tous ces miracles de Jésus nous préparent pour la résurrection de Jésus. Et quand nous lisons les évangiles dans l'attente de la mort et de la résurrection de Jésus. De la même façon, la résurrection de Jésus nous prépare pour notre avenir, l'attente de notre propre résurrection. L'apôtre Pierre a dit ceci, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, par une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux. Les chrétiens voient dans la résurrection de Jésus la certitude de leur avenir, que nos meilleurs moments ne sont pas derrière nous, qu'après la mort, nous n'attendons pas un retour en arrière comme Lazare qui a retrouvé son ancien corps, vivant et pas mort, mais que la résurrection de Jésus nous mène dans une direction opposée à toute expérience humaine qui est symbolisée dans la résurrection de Christ. Oui, c'est un renouvellement en quelque sorte, une renaissance sans doute, mais ce n'est pas inscrit dans un cycle comme un changement de saison. C'est plutôt un nouveau chapitre, c'est un nouveau livre, une nouvelle création. La résurrection, ce n'est pas simplement guérir, ce n'est pas simplement remédier, c'est même pas restaurer, c'est plus que cela. À tel point que nous lisons, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Toutes choses sont devenues nouvelles. Nous ne regardons plus les choses comme autrefois. Nous entendons cela aujourd'hui, ce jour de Pâques. Le premier jour de la semaine déclare cela. Bon, merci d'avoir pris le temps de vous tourner vers Dieu pour apprendre de lui. Et nous nous rappelons que la mort et la résurrection de Jésus sont des événements historiques sur lesquels les premiers chrétiens ont construit leur vie par la foi et avec confiance. Et que la mort et la résurrection de Jésus sont ancrés dans l'histoire juive, l'histoire d'Israël de libération. Et nous nous rappelons que la résurrection de Jésus est plus que simplement donner du souffle à un corps sans vie. Plutôt, elle annonce la fin de la mort et le début d'une nouvelle création, un nouveau début. C'est de mettre notre confiance dans la puissance de Dieu, de transformer nos vies à quelque chose qui ressemble de plus en plus à la vie de Jésus-Christ, son Fils, celui qui est ressuscité le troisième jour. Et quand nous pensons à notre avenir proche, nous pouvons ressentir la peur, comme Adam a dit. Toutes choses ne sont pas claires. On compte les morts par milliers. On compte les malades par des centaines de milliers. On compte les chômeurs par des millions. On compte les confinés par des milliards. Et des budgets de crise à des milliers de milliards. Et cela peut faire peur. Mais c'est Pâques. Et nous sommes invités à marcher avec la certitude que grâce à un dimanche il y a 2000 ans, le dimanche de la résurrection de Jésus, que les choses ne seront jamais les mêmes, que Jésus est ressuscité. Comme on dit en russe, Christos voskres. Et on répond, nous disons en anglais, he is risen, et on répond, he is risen indeed. Et en français, Jésus est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Telle est la nouvelle création que nous tenons en nous. Telle est notre espérance. C'est le sujet de notre foi. Et ceci nous stimule à aimer. Ceci nous stimule à aller en avant avec espérance. Et donc, je vous invite à continuer à chercher Jésus. Il n'est pas parmi les morts, mais il est ressuscité à la vie éternelle.